Bonjour.
Voilà. Si vous ne connaissez pas cette excellente bande dessinée, elle sera en vente à l'issue du débat.
Voilà, avec des dédicaces, parce que c'est l'avantage des bandes dessinées, c'est qu'on fait des dédicaces avec des dessins. On n'écrit pas juste amicalement. C'est lui qui dessine, moi j'écris. Et on travaille ensemble depuis 3 albums, en fait. Le premier, on était déjà venu le présenter ici, il y a 3 ans. Ça s'appelait « Dans l'ombre de Charonne », et c'était sur la manifestation contre la guerre d'Algérie qui a eu en 1962 et qui avait fait 9 morts. Et en fait, on était venu pour fêter les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie ici avec cet album. Donc on est très content de revenir cette année avec Le Choix. Voilà, c'est un album. En fait, c'est vrai que cette année, c'est les 40 ans de la loi Veil, mais on avait envie de le fêter un peu d'une façon particulière, c'est-à-dire de se placer du côté des enfants D'abord du côté des enfants et de tout à l'heure, c'est drôle parce que j'ai vu que le débat d'avant finissait en parlant des enfants de sans-papiers, mais là c'est les enfants qui arrivent et qui sont pas désirés, et on voulait dire que quand on est un enfant, c'est quand même plus chouette, hein, c'est ce qu'ils disaient dans les années 70, ils avaient pas tort, de vivre quand on est désiré. Bon, le fait est que je m'appelle Désirée, et que je m'appelle Désirée parce que j'étais la troisième en 3 ans dans une famille qui avait déjà 3 enfants, et ma mère était très jeune, elle avait 23 ans, donc elle avait fait des voyages en Suisse pour essayer de me faire passer, elle avait surtout fait beaucoup de piqûres abortives et elle n'y était pas arrivée. Elle a pensé pendant très longtemps que j'étais un peu débile parce que avec toutes ces piqûres abortives, les copains lui avaient dit « tu vas faire une enfant débile » et en fait non, c'était moi qui suis comme je suis j'espère pas trop débile et je me suis dit que pendant longtemps j'ai porté ce prénom comme une croix parce que en fait j'ai été élevée en dehors de ma famille parce que ma mère a pas du tout supporté cette dernière naissance. Il faut quand même se dire que d'abord je pense qu'il y avait aussi le fait que ma mère avait rêvé sa vie future et qu'elle avait cru que mon père répondrait à ce rêve et au troisième enfant elle s'était déjà aperçue que mon père répondait pas du tout à ce rêve et en plus elle aurait bien aimé attendre entre 2 grossesses parce que la première arrive, après 11 mois après il y a la deuxième, après 12 mois après il y a la troisième, et je pense qu'elle a vécu ma naissance un peu comme un viol en fait, hein, parce que ça se passe un peu pareil, hein, dans le même endroit en tout cas, et quand on veut pas et que ça sort quand même, c'est quand même assez dur, et ça c'était moi, et donc j'ai été élevée tout le temps en dehors de la famille en m'appelant Désirée, c'est-à-dire partout où j'arrivais, les gens m'accueillaient en me disant waouh, quelle chance, vos parents ont dit que vous aimez beaucoup pour porter un nom pareil, parce que c'est assez rare Désirée, en Afrique non, il y a beaucoup surtout aux Antilles, il y a beaucoup de garçons qui s'appellent Désirée, pas beaucoup de filles. Et voilà, en fait, mes parents étaient cinéphiles. Mon père était assistant de Truffaut. Et on a 3 noms de courtisanes, mes 3 sœurs et moi. En plus, on était 3 filles. Enfin, il y avait un frère aîné qui sauvait la mise. Mais donc, c'était Garance, Lola et Désirée, ces 3 noms de grandes courtisanes. Voilà. Et donc, je me suis dit, pour une fois, mon nom, il est peut-être légitime pour défendre l'avortement en plaçant du côté des enfants et en essayant d'expliquer ce que c'était que le calvaire de naître dans une famille où on veut vraiment pas de vous. Et je pense que les mères qui avortent parce qu'elles estiment qu'elles peuvent pas avoir un enfant, eh ben, elles font un cadeau à cet enfant et que c'est une façon d'être une bonne mère. Et ce qu'était ma mère d'ailleurs, hein, parce que... Oui, c'est ce qu'elle était. Oui, elle était. Elle aurait été une très bonne mère si elle avait pu choisir les enfants qu'elle avait eus. Elle n'a pas été une bonne mère avec moi parce qu'elle le voulait, elle le souhaitait pas. Mais encore, je ne sais pas ce que veut dire vraiment bonne mère. Mais en tout cas, je pense que c'est un droit des femmes, peut-être l'IVG, mais c'est sûrement un droit des femmes, mais c'est aussi un droit des mères. Et on le situe pas comme ça. Hein ? Oui. C'est vrai que tu peux prendre le micro et parler, hein. Parce qu'en fait, on travaille tous les deux. Parce qu'il dessine, mais il ne fait pas que dessiner. Hein. On travaille tous les deux. Oui, l'album, il est né aussi après toutes les manifestations anti. Parce que pendant très longtemps, on a manifesté pour avoir des droits. Et maintenant, on manifeste contre les droits des autres. C'est-à-dire contre le mariage homosexuel, contre l'avortement, contre... C'est vrai. Et on a été submergés par des vagues comme ça, en plus qui avaient des drôles de couleurs, la rose et bleu, là, c'était... Et il y en avait plein partout. Et voilà, je me suis dit que voilà, moi j'avais envie de manifester pour les droits. Et en plus, quand je parle du droit des mères, il y a aussi le droit de ne pas être mère, qui est un droit. Parce que quand on n'a pas envie d'être mère, on est tout aussi légitime que quand on a envie d'être mère. Et c'est aussi c'est le respect des enfants, de se dire que ben, on n'en veut pas, donc on ne va pas en faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir le respect des enfants. Et ça, c'était posé à l'opposé le discours des anti-IVG qui dit « laissez-les vivre ». Oui, laissez-les vivre, mais pourquoi ? Alors, on a même vu des témoignages d'un prêtre qui disait, d'une famille qui était à son 10e enfant et qui n'en pouvait plus, et il disait « oui, mais même s'il meurt de faim », c'était une famille très pauvre, il me dit « même s'il meurt de faim, ben, il mourra entouré, il ne sera pas anonyme comme dans un avortement. Il faut mieux qu'il meure de faim, là, devant sa famille, que ben, c'est quand même une générosité. Bon. » Et voilà. Alors, il y avait une autre chose aussi, là, je vais laisser parler le graphiste un peu là-dessus, ou je ne sais pas, peut-être que je vais le dire à ta place pour une fois. Mais c'est que on s'est retrouvés à Angoulême, parce que comme on fait de la BD, on va dédicacer Angoulême. Et c'était au moment où, en Espagne, on retirait ce droit aux femmes. Donc il y avait plein de manifestations. Et on nous a demandé de faire un dessin. Et on a fait un dessin pour une grande exposition, pour défendre ses droits et tout ça. Et il y avait une affiche pour appeler à la manifestation. Et l'affiche, c'était une femme avec un cintre. Et il y avait écrit « Plus jamais ça ». Et depuis, on est allé dans pas mal d'écoles avec ce livre et on montre l'affiche aux enfants et puis on leur dit, enfin aux enfants, c'est des terminales, hein, on ne va pas avoir les CP, les CM1, CM2, on va quand même dans des lycées. Et on leur dit, voilà, ça vous dit quoi cette affiche? Pourquoi plus jamais ça? Eh bien, ils ne savent pas, parce qu'ils ne supposent même pas que les femmes pouvaient se servir de cintre pour s'enfoncer la tige dans l'utérus. C'est tellement épouvantable. Et du coup... on a des cris comme ça d'enfants, enfin on a des regards quand on leur explique pourquoi. Et on s'est dit, ben voilà, peut-être qu'il faut réinventer un autre discours aujourd'hui. Parce qu'en fait, les femmes qui tenaient encore le discours, c'était les femmes qui s'étaient battues pour. Parce que c'est ça aussi qu'on s'est aperçu en faisant ce livre. Moi, j'avais 15 ans en 75. Hein, mais c'est que la loi Veil ne serait jamais arrivée s'il n'y avait pas eu les combats du MLAC, s'il n'y avait pas eu les combats à choisir, si les femmes, les femmes et les hommes, hein, parce que c'était des combats très très mixtes, ne s'était pas mobilisé pour le légaliser. S'il n'y avait pas eu le manifeste des 343, hein, femmes pour l'avortement, qu'on a appelé après le manifeste des 343 salopes, mais ça c'est Charlie Hebdo qui avait appelé ça le manifeste des 343 salopes. Hein. Il avait rigolé en disant qui c'est qui a engrossé les 343 salopes. Et du coup, on a gardé ce nom-là pour les. Mais en fait, c'est des femmes qui se sont mobilisées. Il y avait Catherine Deneuve et tout ça, et qui ont dit si on est 343 signés sur un manifeste, on va pas mettre 343 femmes en prison. Il faut être nombreux. Hein. L'union fait la force. Et du coup, elles avaient signé ce manifeste. Après, les médecins ont fait pareil. Ils ont signé, il y avait 331 médecins qui ont signé un manifeste en disant « on pratique des IVG ». Et à force de faire comme si la loi n'existait pas, cette loi anti-IVG qui datait de 1920. Alors là, je reviens à un autre sujet qui me tient à cœur dans le discours qui vient un peu du passé. C'est que quand on parle du droit des femmes à disposer de leur corps, les jeunes aussi, ils ont du mal à comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire, le droit des femmes à disposer de leur corps? C'est flou. Alors qu'en fait, ce droit-là et la façon de l'avoir formulé comme ça, c'est parce qu'avec la loi de 1920, qui est arrivée après la guerre de 14, où il y avait eu tellement de morts, en plus comme il y a eu après la grippe espagnole, la France était carrément exsangue, et du coup, on voulait repeupler la France. En plus, on avait encore les ennemis, l'Allemagne et tout ça, donc on voulait avoir un pays fort. Un pays fort, c'était un pays qui avait plein de garçons capables d'aller à la guerre et plein de filles capables de faire des enfants qui feraient des filles et des garçons qui iraient à la guerre et qui feraient les filles qui feraient des enfants. Et Du coup, on a dit que le corps des femmes appartenait à l'État. C'est-à-dire elles étaient là pour reproduire et elles n'avaient pas le droit d'en disposer. Elles étaient obligées de faire des enfants. Alors on valorisait les familles nombreuses. Quand on avait, on travaille sur la Samaritaine. En ce moment, les patrons de la Samaritaine donnaient des primes à leurs employés qui avaient 9 enfants vivants. C'est-à-dire que si vous aviez des morts, ça, non, il fallait que ça soit 9 enfants vivants. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que ces familles bourgeoises qui allaient féliciter les familles avec plein d'enfants, elles en avaient moins. Parce que c'est quand même une question de riche ou de pauvre, l'IVG. Les femmes riches ont toujours pu aller pratiquer des IVG dans des hôpitaux, dans des bonnes conditions, ça coûtait très cher, mais elles ont toujours pu. Alors que les pauvres, ils n'ont pas pu. Et il y a encore une chose que je vais dire avant de repasser le micro à Alain, c'est que c'est pas un combat passé. C'est un combat actuel en France parce qu'il y a quand même 130 centres IVG qui ont fermé en 10 ans, mais c'est aussi un combat dans le monde parce qu'il y a encore aujourd'hui 9 femmes, dans toutes les 9 minutes, une femme qui meurt d'un IVG clandestin. Dernièrement, là, on travaille aussi sur le Chili et il y a une jeune fille au Chili, une petite fille de 11 ans, enceinte de son père qui l'avait violée, et ben, elle a dû mener sa grossesse jusqu'au bout, interdit l'IVG. Au Brésil, il y en a une autre, c'était son beau-père. Et elle avait 9 ans, elle attendait des jumeaux. Du coup, la mère l'a amenée à l'hôpital, elle a exigé un IVG. Et au Brésil, normalement, on a le droit à l'IVG en cas de danger pour la femme. Et voilà, donc là, 9 ans, attendre des jumeaux, c'était quand même très, très dangereux. Et bien, elle a été excommuniée. Sa mère a été excommuniée, l'équipe médicale a été excommuniée, et le beau-père qui violait cette petite fille et qui violait sa sœur qui était handicapée, lui, il a dit ah non, ça c'est pas pareil, le viol, voilà, c'est moins grave que de tuer un enfant dans le ventre de sa mère. Et j'ai même eu, j'avais mis l'article sur ma page Facebook, et j'ai même eu une fille qui est intervenue en disant oui, mais il faut quand même dire que le viol, l'homme fait appel à son instinct de reproduction, alors que dans l'IVG, la fille fait appel à son instinct de mort. Alors j'ai même pas discuté, hein, je l'ai viré de mes amis Facebook parce que voilà, c'était pas un bon ami. Et je vais te laisser parler un peu.
Elle a dit beaucoup de choses. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que quand on fait nos albums, on fait beaucoup de, on appelle ça du roman graphique plutôt que de la bande dessinée, c'est-à-dire que nous, on parle de, on raconte un peu l'itinéraire individuel de gens qui ont existé, qui existent, qu'on rencontre, qu'on interviewe, et on les contextualise, on les met dans leur vie de tous les jours, dans leur époque, parce qu'on pense que l'être individuel est le produit de cette vie collective, et il agit et il subit. Et du coup, on fait beaucoup de recherches pour raconter nos histoires. Et on découvre des choses, et c'est ça qu'on raconte dans nos histoires. Et par exemple, pour le choix, on a vraiment compris que l'importance des luttes... parce que c'est vrai que c'est les 40 ans de l'année de la loi Veil, que ce combat de Simone Veil est très important. Elle s'est battue, faut reconnaître qu'elle, grâce à son intervention à l'Assemblée nationale, réussi à faire passer une loi qu'on n'aurait sans doute pas aujourd'hui. Mais que s'il n'y avait pas eu avant des milliers de Français, de Françaises et d'étrangers qui se sont battus pour le droit des femmes, il n'y aurait pas eu cette loi. En fait, on a découvert, par exemple, que au moment où Simone Veil prend son poste de ministre de la Santé, c'est Poniatowski qui est ministre de la Santé à l'époque et qui lui passe le flambeau et il lui dit si tu ne légifères pas, tu finiras par avoir un avortement sur ton bureau. Et en fait, il dit ça parce que, voilà, à l'époque, c'est Giscard d'Estaing, un très grand progressiste, vous savez tous, qui pousse à ça parce que ils ont vraiment très peur de ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que on découvre que les groupes comme les organisations comme le MLF ou Choisir ou le MLAC à l'époque font carrément des groupes de prise de contrôle de ces questions-là, où une forme, on peut voir à travers un film qu'on a vu qui a été tourné en 78 par Yann Lemasson, où il va filmer un groupe du MLAC à Aix-en-Provence, c'est ouais. Ça, ouais. Et oui, on voit des groupes de 10, 12 personnes, des femmes, des hommes, voire des enfants, qui participent ou qui assistent ou qui sont présents à des accouchements. Certaines d'autres fois, c'est des avortements, mais c'est vraiment des groupes de parole où les femmes recueillaient.
On pose des stérilets aussi.
Voilà,
hein.
On pose des stérilets. Il y a quelques médecins qui sont là pour donner des conseils, pour assister, mais ils ne pratiquent pas. Et les gens qui pratiquent, ce sont des femmes. Je ne sais pas s'il y avait des hommes qui pratiquaient.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais qui sont secrétaires, employés, ouvriers, rien de spécialisation
médicale.
Mais
c'est vrai que les hommes qui participaient, c'était plutôt des hommes qui étaient en études de médecine et qui étaient déjà concernés par la médecine, ouais. Et tout ça, et c'est eux qui donnaient...
Voilà.
Voilà, et les infirmiers, c'était surtout eux, hein, voilà.
Il y a des sages-femmes aussi, ouais, mais par les hommes. Vraiment, ces groupes, ce sont des groupes de parole, ce sont des groupes de pouvoir, en fait, qui sont mis en place, où on discute, on parle avec la femme qui va se faire avorter ou qui va accoucher, on lui demande quel est son point de vue, est-ce qu'elle a vraiment bien décidé l'histoire, et qu'est-ce que pense son compagnon, le père, etc., comment ça se passe avec son entreprise. Et c'est vraiment, on mange avec elle, ça se passe, et après quand on voit un film par exemple où il y a un accouchement qui va se passer, il y a à peu près une dizaine de personnes, il y a 3-4 femmes qui sont autour de la femme qui va accoucher, qui la touche, qui parle doucement avec elle, il y a des hommes qui sont là, et c'est assez vraiment impressionnant. Et ça, je pense que c'est ce qui faisait peur au pouvoir en place à l'époque, et qui a fait que il y a cette loi qui a été votée et qui a permis, je pense, et là c'est là où on voit que les gens comme les gens du MLAC n'ont pas été satisfaits de cette loi Veil, parce que elle a permis d'enlever cet embryon de pouvoir qui se mettait en place,
et il a été
mis dans les mains des médecins et dans le monde médical. Alors c'est positif parce qu'un accouchement, un avortement se fait dans des conditions meilleures et où il n'y a pas de danger, mais quelque part ça a permis de faire échapper cette mise en place d'un pouvoir.
Et surtout par rapport au pas de danger, ce qui s'est passé aussi avec le MLAC et avec Choisir et tout ça, c'est qu'il y a eu la méthode Karman, et que la méthode Karman, ça a été révolutionnaire parce que c'était une méthode qui était sans danger. Et c'est pour ça aussi que nous, ça a été une de nos découvertes, parce qu'Alain a raison, quand on fait un livre, on se dit pas on va faire un livre parce qu'on va expliquer aux gens comment fonctionne le monde. On fait un livre parce qu'il y a un sujet qui nous touche, et du coup on commence à travailler sur le livre, et puis on commence à prendre plein de documents, de lire, de voir des films. On interviewe beaucoup beaucoup de gens, parce qu'on a rencontré des gens du MLAC, on a rencontré Joël Brunerie-Kaufmann et tout ça, qui a été très importante pour ce mouvement. On a rencontré aussi des gens qui avaient été médecins à Grenoble et tout ça, parce que voilà, les gens, on a rencontré aussi les gens du planning familial. Enfin, on a fait tout un travail après de recherche, et donc on a découvert des choses. Mais une des premières choses qu'on a découvertes, c'est un copain qui est libraire et sa librairie s'appelle Le Point du Jour, et il m'a offert une brochure du MLAC, et je voyais qu'elles étaient très tristes de la loi Veil, parce que quand Alain parle du film de Yann de Masson, il se passe en 78, la loi Veil elle est passée, mais ces femmes-là, elles continuent à pratiquer des avortements. D'abord parce que il faut être majeur, et qu'à l'époque la majorité, elle vient juste de passer à 18 ans. Mais il faut être majeur pour avoir le droit à l'IVG, et justement ce procès à Aix, c'est parce que la jeune fille elle est mineure, et puis aussi ils ont l'impression que tout d'un coup les médecins, ça avait été les principaux opposants contre la loi Veil, c'est pas l'église, hein. L'église en soi, mais les médecins, le conseil de l'ordre des médecins a été redoutable, hein. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient les médecins avant qui pratiquaient des avortements, ils étaient rayés de l'ordre des médecins, donc ils pouvaient plus être médecins, et puis la médecine a fait un énorme barrage. Donc les gens du MLAC, ils se sont dit, d'abord ils ont eu beaucoup de mal de rentrer dans les hôpitaux, c'était pas facile, hein. Au début il y avait beaucoup de gens qui faisaient des blocages. Moi je me suis aperçue par exemple en faisant ce livre, j'ai découvert des choses aussi, parce que moi j'ai eu un IVG en 82, mais la méthode qu'on m'a faite, c'était la vieille méthode de curetage et tout ça, qui est beaucoup plus dangereuse. Mais on m'a pas fait la méthode Karman parce que c'était une méthode de militants. Et les médecins voulaient pas faire les méthodes de militants, alors qu'en fait c'était une méthode d'aspiration très très simple et qui était absolument pas dangereuse. Donc il y avait encore un grand combat à mener, et d'ailleurs le combat il est toujours là, puisqu'on voit bien que dans les hôpitaux, par exemple, quand on arrive dans un hôpital, vous voyez, il y a marqué le service du grand cardiologue, le service pour les poumons, le service pour chaque spécialité. Il y a jamais le service pour les VG. Les gens ils veulent pas mettre leur nom parce que c'est honteux. Et quand on a fait ce livre, on a rencontré, entre autres, à Lyon, un jeune anti-IVG qui nous a sorti tout le discours à 20 ans, comme quoi les femmes qui étaient monstrueuses, qui tuaient les enfants et tout ça. Donc moi, j'ai tout noté, puis je suis allée voir quelqu'un du planning et je lui ai dit, qu'est-ce que je peux avoir comme réponse. Mais il y avait aussi un des membres du jury qui était médecin et qui est venu me voir après en me disant, mais moi, j'ai des choses à dire sur l'IVG, c'est monstrueux, ces femmes qui avortent 7 fois de suite, sans aucun état d'âme. Maintenant, l'IVG est devenu un moyen de contraception. Alors on se retrouve assez désarmé face à ces questions-là, quand on vous dit des choses comme ça. Parce que moi, j'ai toujours mon truc de dire, il faut être désiré pour naître, mais à la fois, je suis pas toujours armée par rapport à toutes les attaques des anti-IVG. Donc là, c'était c'était bien parce que j'ai pu tout noter et aller voir des professionnels et lire des livres, parce que c'est ça, faire un livre aussi, c'est se donner le temps de tout d'un coup se dire qu'on va s'investir à fond dans un sujet et travailler dessus et tout ça. Et du coup voilà, on m'a dit, mais récidiviste, le coup des femmes qui avortent 7 fois de suite, c'est parce que on dit que c'est des récidivistes, et récidiviste, c'est un terme judiciaire, c'est les gens qui ont fait quelque chose de mal et qui recommencent. Et ça, c'est des choses auxquelles on pense pas sur le coup. Donc c'est une accusation directe de dire, regardez, elle, c'est une récidiviste, donc une coupable, hein, parce que on est récidiviste quand on a été jugé coupable de quelque chose et qu'on recommence. Donc déjà là, ça commence à voilà. Et alors en plus, il y a une autre chose aussi qui est très intéressante, c'est que auquel on pense pas forcément, pourtant hein, j'ai beau l'avoir vécu, parce que une femme, elle commence à, ben là on voit que c'est à 9 ans au Brésil que cette petite fille est enceinte, mais bon, disons qu'en France c'est plutôt les risques commencent vraiment à partir de 14 ans jusqu'à la ménopause, c'est-à-dire jusqu'à après 50 ans, donc ça fait quand même énormément d'années à gérer sa fécondité, de savoir si on peut ou pas avoir un enfant, si on a une sexualité, ben il faut savoir pendant toutes ces années-là, c'est-à-dire presque 40 ans. Et ben, en 40 ans, ben oui, si on a fait 3 erreurs ou si on a fait 4 erreurs ou si on a fait, c'est pas si énorme que ça en fait. Surtout que les erreurs, des fois c'est parce que le stérile a pas marché, des fois c'est parce que la pilule a pas marché. Et puis même si c'est parce que nous on a oublié de prendre la pilule, et même si c'est parce que nous on n'a pas pensé que ça pouvait arriver, ben oui, ben c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Mais le fait est que voilà, ces erreurs, c'est normal, que c'est pas si étonnant que ça qu'il y en ait plus d'une fois dans une vie, parce qu'une vie est longue et pendant très longtemps, et on n'a jamais on s'est jamais dit, waouh, les femmes, elles assurent quand même, pendant 40 ans elles sont là à gérer ça, à se dire là j'en veux, puis là je vais en avoir, et là, parce qu'on pourrait se dire ça, on pourrait inverser le problème en se disant waouh, et puis déjà moi je trouve que bon, ces femmes qui avortent sans état d'âme, moi je trouve que c'est un courage aussi, hein, de se dire, alors maintenant c'est moins douloureux et c'est pas douloureux et c'est tout ça, mais alors ne parlons pas des femmes qui faisaient des IVG avant, parce que même pendant la méthode Karman, il n'y avait pas d'anesthésie. Bon, faut quand même être assez courageux, hein, parce que, moi, ma mère, par exemple, s'il y a beaucoup de gens qui me demandent si j'en veux à ma mère, mais je me dis, mais ma fille a fêté ses 22 ans aujourd'hui. Elle fête ses 22 ans aujourd'hui. Et ma mère avait 23 ans quand je suis née. Et donc, ma fille, pour moi, c'est la petite dernière en plus. Donc, je la vois quand même comme quelqu'un de jeune, de très jeune. Et je me dis, ma mère, elle m'a eu. Et après moi, elle a fait 3 IVG clandestins toute seule dans sa salle de bain, avec 3 bébés. Parce que mon frère avait 3 ans, moi, enfin 3 ans ou 4 ans, on se suivait d'un an. Donc moi, j'avais moins d'un an quand elle a fait cette autre IVG. Et donc, elle avait 3 petits dans la pièce à côté, et elle, 3 années de suite, jusqu'à qu'elle ait une hémorragie tellement grave qu'on l'amène à l'hôpital où elle s'est fait traiter de salope. Parce qu'il faut quand même le dire, on a interviewé plein de gens. Hein. Moi, je ne le savais pas, ce n'est pas ma génération. Mais les femmes se faisaient traiter de salope. Des fois, on les laissait avec leur sonde toute la nuit dans l'hôpital en disant c'est bien fait pour elles. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas mieux traitées quand elles accouchaient. C'était très dur, les accouchements. C'est à la même époque, d'ailleurs, ceux qui se sont battus pour l'IVG se sont battus pour les méthodes d'accouchement sans douleur. À la clinique des Lilas, par exemple, tout le combat de Boyer, de tout ça, c'est quelqu'un qui a combattu aussi pour l'IVG, hein, et il a combattu pour l'accouchement sans douleur. Donc on était de toute façon, où on accouchait, où on avortait, on n'était pas... des salopes. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont repris ça... Charlie Hebdo, c'est parce que c'était vraiment un mot qui se disait, qui était voilà. Et du coup, et après ma mère, du coup, elle a après cette hémorragie, eh ben elle a une autre grossesse qu'elle est forcée de mener à bien, parce que sinon on lui dit qu'elle risque de mourir. Et après, elle peut se faire poser un stérilet dans la plus grande des clandestinités. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'avant, on avait fait un livre qui s'appelle « Dans l'ombre de Sharon », dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais dans les valises, les porteurs de valises, ceux qui portaient l'argent pour aider pour la guerre d'Algérie, eh ben, il y avait aussi des diaphragmes qui circulaient, qui venaient d'Angleterre pour la contraception, parce que la contraception était défendue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, l'IVG, ça ne doit pas être une méthode de contraception. » Mais le combat pour la contraception, il a été aussi pire que le combat pour l'IVG. Et en fait, la loi est passée en 67, mais en 70, c'était encore très dur de trouver la pilule. Très difficile. Il y avait des médecins qui refusaient à la campagne de faire des ordonnances aux femmes. En plus, il fallait avoir 21 ans. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui commencent leur sexualité avant 21 ans. Et en plus, moi, je me rappelle, on n'avait pas l'ordonnance. On allait dans une pharmacie, on était très mal vus. Déjà, on demandait la pilule tout doucement, hein, parce qu'il fallait le dire à voix haute. Je ne sais pas pourquoi il fallait le dire à voix haute. Mais en tout cas... Et voilà. Et alors, si on n'avait pas son ordonnance, c'est qu'on avait oublié son ordonnance. Alors là, on était bon. Hein. Il fallait attendre le prochain rendez-vous. Donc, la loi pour la contraception, déjà, ça avait été très mal reçu. Donc, voilà. C'est. Alors, il y a des gens aussi qui nous disent, par rapport à ce livre, qu'il y a deux histoires dans le livre, qu'il y a deux parties, parce qu'il y a une partie où je raconte plus cette enfance. Hein, où chaque année, je suis envoyée dans une pension différente, dans une famille d'accueil différente. Enfin, mes parents m'ont pas abandonnée. Hein, ils me placent chez des copains, dans des pensions où on rentre à Noël et à Pâques. Et il y a une pension d'asthmatique comme ça qui est assez connue, Argelès-Gazos, où moi j'ai jamais été asthmatique, mais j'y arrive à 12 ans. Et pour avoir des copines dans la cour de récréation, il fallait fumer des clopes. Donc je dis quand je reviens, je suis presque asthmatique. Je tousse comme une malade parce que je fume un paquet par jour. Et mais par contre, dans mon parcours, je rencontre plein de gens comme moi. Je ne suis pas du tout unique, mais plein. On est très, très nombreux, des garçons. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que... Enfin, les journalistes, quand ils font des articles, ils font toujours comme si c'était un livre pour les femmes. Mais moi, j'ai reçu plein de livres de lettres d'hommes qui étaient super émus, qui disaient « Mais moi aussi, ma mère, ceci, et moi aussi. » Et par exemple, dans cette histoire, je raconte un copain que j'ai croisé déjà quand j'étais au lycée de Biarritz, et je le recroise des années après dans un autre lycée de Bordeaux, parce que lui, il a eu les mêmes errances que moi. Mais lui, c'était pire, parce que sa mère a 3 enfants coup sur coup comme ça. Et pour le troisième, ça se passe très, très mal, l'accouchement. Et en fait, des fois, quand on a trop d'accouchements, ça casse l'appareil reproductif des femmes, en fait. Hein. Et du coup, on lui enlève tout. Hein. On appelle ce qu'on appelle la totale à l'époque. Hein. Donc, elle se réveille, elle sait qu'elle n'aura plus jamais d'enfant. Et le dernier, elle n'en veut pas plus que ma mère ne me voulait moi. Et du coup, elle fait sa valise et elle part. Et en fait, mon copain, il en fait un mythe de sa mère. C'est l'héroïne. Il dit elle a voulu se battre pour le droit des femmes. Il la défend, hein, mais il ne la voit plus jamais. Et il se fait opérer de l'appendicite. Il fait semblant d'avoir l'appendicite. Il se tord de douleur et tout ça. On finit par l'opérer en croyant qu'il a vraiment l'appendicite parce que sa mère lui a promis qu'elle viendrait le voir à l'hôpital et elle vient jamais. Et il est là dans l'hôpital. Et alors, je l'ai retrouvé pour faire ce livre. Ça faisait 32 ans que je ne l'avais pas vu. C'était super émouvant. Et parce que c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et quand je l'ai retrouvé, j'ai trouvé qu'il était toujours aussi bien. Super. Et voilà. Et donc, il y a plein d'errances comme ça. Mais par contre, quand les gens disent que le livre est en deux parties, c'est parce qu'il y a cette partie de vie subie qui est l'enfance, parce que dans l'enfance, on subit sa vie. Mais l'autre partie, pour moi, c'est pareil. C'est la vie agie. C'est tout d'un coup, on comprend. Hein, moi, je vais comprendre parce qu'en fait, je vais trouver des lettres. Et dans ces lettres, il va y avoir écrit, je comprends les piqûres anti-IVG, je comprends tous ces trucs-là. Et tout d'un coup, ça va me permettre de comprendre que c'est pas moi qui suis fautive, mais que c'est la loi. En fait, hein. Donc c'était vachement agréable de savoir que, et puis que ça arrivait à plein d'autres gens, parce que souvent, et ça c'est, quand Alain parlait de nos livres tout à l'heure en disant qu'on prend toujours des individus comme ça qui traversent l'histoire en vivant et qui participent à l'histoire, en fait c'est beaucoup plus rassurant de se rendre compte qu'on est témoin et acteur d'une histoire que juste de penser qu'on est victime. Voilà, je ne sais pas, moi, la pauvre enfant qui n'était pas désirée et qu'on ne voulait pas, on est des millions comme ça, sauf que maintenant on explique. Que ça, et c'est beaucoup plus agréable de penser que c'est parce que ça fait partie de l'histoire et qu'en plus le combat a été gagné, en tout cas en France. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. T'as des choses que tu veux dire ? Ah oui, si, oui, il y a peut-être des gens qui ont des questions à me poser.
Ah oui, alors voilà, il y a un micro.
Oui.
Donc si vous avez des interventions, des témoignages, des questions. N'hésitez pas. Voilà.
C'est juste pour information. En médecine, il n'y a aucune technique sans aucun danger. Donc, vous ne pouvez pas dire telle technique ne présente aucun danger. Il y a forcément, dès qu'on s'attaque, entre guillemets, à un organe quel qu'il soit, il y a des réactions des fois nerveuses. Enfin, vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours des accidents, quelle que soit la technique. Donc, ne dites pas, il n'y a jamais... Voilà. Et sinon, l'autre chose, c'est qu'il se trouve qu'en France, il y a le serment d'Hippocrate où il y a écrit qu'il ne faut pas donner de drogue abortive et tu ne provoqueras pas la mort. Voilà. Et il se trouve que l'ordre des médecins, pendant longtemps, c'était que des vieux messieurs.
Voilà. Alors, je vais répondre à la première question où vous dites il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Oui, bien sûr, il y a toujours des dangers. Mais bon, il faut quand même dire que quand on s'enfonçait des queues de persil dans l'utérus ou des bouts de cintre dans l'utérus, on a fait toute une page des choses. Hein, il y avait des os, il y avait des choses comme ça, ou qu'on se tapait sur le ventre ou qu'on tombait dans l'escalier. Alors déjà, le côté de déloger l'œuf, c'était de provoquer une infection pour... Enfin, c'est assez hard, hein. Mais on a quand même interviewé beaucoup, beaucoup de médecins, hein, qui nous ont dit ça, que la méthode Kerman était une méthode sans danger. C'est pour ça qu'on s'est permis de la dire. Alors, bien sûr, il peut toujours y avoir des dangers, mais figurez-vous quand même que si les femmes du MLAC, elles avaient eu des morts au moment où elles faisaient ces méthodes, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les femmes, elles mouraient par dizaines et par dizaines dans les hôpitaux, hein. C'était, moi, j'ai une amie médecin qui témoigne là-dedans. Elle disait, elle faisait ses études de médecine et elle disait, elle travaillait dans un endroit où on faisait des dialyses parce qu'en fait les gens avaient des septicémies. Et du coup, elle disait, mais elle est où la dame qui était là hier? Et elle était morte. Il y a énormément de gens qui mouraient de ça. Ils avouaient pas, hein. Il y a un témoignage qui est très beau aussi de quelqu'un qui s'appelle Otero. Et sa fille a fait un film, Marianne Otero, qui est très beau, qui s'appelle Le Secret, l'histoire d'un secret. Et elle raconte, ben, c'est pareil, sa mère, elle s'est mis une sonde et elle va avoir une infection et elle va mourir et tout ça. Alors, bon, bien sûr, on peut mourir aussi à l'hôpital en se faisant opérer de l'appendicite, hein, mais il y a quand même une grande limitation des risques. Cela dit, on était quand même contents qu'il y ait des médecins. Et que les gens qui pratiquaient des IVG avec la méthode Kerman n'étaient pas des inconscients, hein. Ils se faisaient former par des médecins, ils avaient des infirmières, ils avaient peur aussi, hein. Il y a beaucoup qui nous disent que c'était des très mauvais souvenirs. D'abord parce que c'était pas agréable de faire mal et que ça se faisait sans anesthésie. Et que du coup, ça faisait mal. Et puis sinon, la question des médecins qui étaient des vieux monsieur, non, la médecine se régénère, hein. Ah, l'ordre des médecins, oui, mais toujours, l'ordre des médecins a été créé pendant la guerre pour dénoncer les juifs qui étaient médecins. Hein. Donc l'ordre des médecins, et non seulement c'était des vieux, mais c'est, en plus c'était des gens excessivement réactionnaires, et ils sont toujours excessivement réactionnaires, et ils sont toujours excessivement vieux. Hein. L'ordre des médecins, c'est pas des gens sympas. Hein. Mais les médecins, il y a toujours eu des jeunes médecins et des vieux médecins. Ça, c'est certain. Merci, c'est gentil.
Bon, je complète un petit peu ce que vous venez de dire. Je suis infirmière anesthésiste et je travaille dans une grande maternité sur Paris. Et pas plus qu'hier, effectivement, on fait des EVG régulièrement. Et c'est pas par, comment dire, pas par honte, mais on respecte l'anonymat des dames. Sur le tableau de planning, on marque simplement aspiration, temps d'aspiration, mais on ne met jamais le nom des personnes. Parce que des fois, c'est secret, certes. Voilà, ça, on le respecte. Et d'autre part, effectivement, je suis tout à fait consciente que ça se passe très bien au bloc opératoire. Les femmes, elles ont une visite d'anesthésie avant. Elles sont à jeun. Elles ont une prévention d'antibiotiques. L'aspiration, elle se passe sous AG. La dame, elle est endormie. Elle ne ressent rien. Donc, c'est vraiment sécurisé. Ça, je peux le reconnaître. Et d'autre part, là, pas plus qu'hier, on a eu justement une IVG qui a saigné mais la rage. Et effectivement, on était là, on a fait le nécessaire pour arrêter l'hémorragie, etc. Et tout s'est bien passé, la dame est sortie, tout va bien. On l'a gardée plus de 24 heures pour surveiller, tout va bien.
Oui, c'est sûr. Mais je voudrais rebondir aussi sur les médecins. C'est que quand j'ai parlé de Lyon tout à l'heure et que j'ai parlé de ce médecin qui était contre l'IVG et qui parlait des récidivistes, je lui ai envoyé le livre et il m'a écrit après en me disant « Je trouve que c'est un très beau livre et je trouve que tu es vraiment très tolérante et tout ça. » Et c'est un livre très... Mais il me dit « En fait, ça m'a culpabilisé. » Enfin, il m'a dit « Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que nous, les médecins, on appelle ça les petits gestes, l'IVG. » Parce qu'en fait, faire un IVG, en fait, la médecine, elle aime la technologie, elle aime la technique, elle aime faire des choses qui soient... Et aspirer un utérus, c'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi. Et en plus, les médecins font médecine plutôt pour sauver des vies. Et là, comme il y a toute cette culpabilisation de se dire qu'on fait l'inverse, c'est pas quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'assez difficile. Et alors, il me dit, on appelle ça les petits gestes. Et du coup, on laisse faire les IVG à tous les... ou les étrangers... Ou les jeunes qui arrivent de médecine, et du coup ils prennent ça comme une punition. Et il me dit, et du coup les femmes sont pas bien accueillies et pas bien traitées dans beaucoup beaucoup d'endroits à cause de ça, quoi. Et ça c'était quelque chose aussi d'assez important.
Ça c'est sympa. Hein.
Moi c'est bien la pluie parce que du coup on est.
Mais
c'est chaleureux.
Non, ce qu'on voulait dire, c'est que dans les Dans les hôpitaux, il n'y a pas marqué sur les. Vous arrivez, il y a marqué service cardiologique avec les noms des.
Il n'y a pas marqué le nom des médecins. Il n'y a pas de service. Non, c'est normal. Voilà, les gens, c'est normal.
C'est normal qu'on ne mette pas les noms des gens qui.
L'anonymat est normal en médecine. Hein. Il y a le secret médical. Hein. De toute façon, même si on se fait opérer de quoi que ce soit, on garde le secret. Mais par contre, c'est les médecins. On est fiers de diriger le service de neurologie, mais on n'est pas fiers de diriger le service. On est fiers aussi de diriger le service de la maternité. Mais ça, c'est un médecin hein, qui nous l'a dit et qui dirigeait un service. Et il dit, moi, quand je suis arrivée, j'ai dit, ben, on va écrire tous les gens du service qui s'occupent de ça. Et en fait, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, non, on ne va pas mettre nos noms. Et personne n'a voulu. Donc, c'était plutôt à ce niveau-là qu'on le disait. Ouais.
Sans doute.
Oui. C'est terrible.
Mais c'est
important. J'ai une question ici, s'il vous plaît.
En Amérique, il y en a même qui se sont tués. Hein.
S'il vous plaît, il y a une question ici.
Où ça ?
Oui. Elle est où ?
Oui, bonjour. Je voudrais juste. Enfin, moi, je ne suis pas bien vieille, j'ai 33 ans. Mmh. Ça a été un peu le parcours du combattant pour me faire poser un stérilet. Mon médecin traitant ne voulait pas. Ouais. Pourtant, je suis une fumeuse et je prenais la pilule. Donc, je suis allée en milieu hospitalier classique, hein, qui s'appelle le Centre Olympe de Gouges, à Tours d'ailleurs. Et ça a été aussi le parcours du combattant pour le trouver en pharmacie. Ouais. Voilà. Ouais. Et il y a aussi autre chose sur ce choix ou non d'être mère. Moi, c'est pas un choix. Je fais partie de ces femmes qui n'ont pas de désir d'être mère.
Bah oui.
Et à chaque fois que je le dis, soit j'ai cette éternelle phrase qui m'énerve, ah, tu vas voir, ça va venir. Ou alors c'est limite si on me ferait une prise de sang pour voir si j'ai bien tous mes gènes.
Si vous êtes normale.
Voilà. Et aussi, dernière chose concernant l'hôpital, j'ai été très choquée en accompagnant une amie à moi qui allait se faire avorter. C'est qu'il y avait une espèce de salle d'attente foutoir. Elle allait se faire avorter. Il y avait des femmes enceintes à côté d'elle. Oui. On voyait qu'il y avait d'autres femmes. Vu la tronche qu'elles avaient, c'était des violences.
Ouais.
Et c'était une espèce de salle d'attente foutoir. Donc il n'y avait aucune reconnaissance en fait d'une femme enceinte qui veut être mère, d'une femme qui vient de subir des violences sexuelles ou d'une femme qui vient se faire avorter.
Ouais, mais c'est un manque de respect, oui. Mais je vais répondre d'abord sur le stérilet, parce que dans le livre en fait je raconte moi la première fois que j'ai un IVG, c'est parce que justement j'avais un stérilet. Et en fait, à l'époque, il y a eu une époque où les femmes qui n'avaient pas d'enfants avaient le droit d'avoir des stérilets. Après, on a dit que c'était très mauvais. Après, on a dit... Parce qu'on leur complique énormément l'existence. C'est comme avec la pilule. On dit, il y a des moments où il faut que vous arrêtiez parce qu'il faut que vous repreniez votre cycle normal. Et hop, du coup, on se retrouve enceinte. Parce qu'avec ces... Ils appellent ça des portes. Voilà, qu'il faut faire des portes. Donc, et en fait, moi, je me fais engueuler par le médecin, en plus, qui dit quoi, elle a un stérilet, alors que elle a pas eu d'enfant. Alors, moi, je dis, mais ça, je suis toute jeune, j'ai 22 ans, je dis, mais ça, c'est vos disputes de médecin, parce que là, je viens pour un IVG, pas pour avoir les règlements de compte. Moi, j'ai un gynécologue qui me dit qu'il faut poser un stérilet, parce que je fume, effectivement, comme vous, et que la pilule, c'est pas bon quand on fume. On me dit même qu'on risque de me couper une jambe, que je risque d'avoir une thrombose, donc j'opte pour le stérilet. Et je suis enceinte. Et du coup, le médecin, il m'engueule. Et moi, je lui dis, bah, écoutez, ça, c'est, vous réglerez ça entre médecins, mais là, moi, je ne suis pas là pour ça. Et du coup, pour se venger, il prend une poire qui est à côté de lui. Alors là, j'ai compris aussi en faisant le livre ce que c'était, parce que je savais l'objet, comment il était, et le liquide, la couleur du liquide. Et en fait, c'était une poire remplie de bédadine. Et il me la verse, comme j'ai un spéculum, il me la verse à l'intérieur pour se venger. Et ça brûle, hein. J'ai tout mon corps qui brûle, j'ai des gouttes d'eau qui sortent partout du visage. Et les infirmières l'engueulent, elles lui disent « mais ça va pas, tout ça ». Et ça, c'est en 82, ça fait 7 ans que la loi est passée. Et non, il y a des gens qui sont très, très, très réfractaires. Mais peut-être parce qu'ils ont peur de se faire tuer, effectivement. Je rigole.
Je voulais, par rapport à votre non-désir, je trouve que c'est très important de respecter ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça nous on a hésité beaucoup pour trouver le titre de notre livre, mais je pense que le choix, c'est vraiment, il faut se battre pour le choix, pour avoir le choix. Si des gens ne veulent pas veulent avoir des enfants, ne veulent pas avorter, ils ont tout à fait le droit. Nous on veut, mais par contre on veut pas leur imposer quelque chose, on veut qu'il y ait le choix,
que la
femme et l'homme puissent décider comme ils veulent de faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est
mais
ça
en fait
qui est important.
Il y a aussi, c'est très compliqué cette histoire, parce que c'est même une histoire de droit. droit plus qu'une histoire de choix, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas le choix, ils ont envie d'avoir des enfants, ils ne peuvent pas en avoir. Et ça, c'est très douloureux aussi. Hein. Donc, moi, c'est pour ça qu'on a fait le texte, ils voulaient mettre le choix d'avoir un enfant ou pas. J'ai dit non, parce que ça fait violence à des personnes aussi. Il y a des gens, ils n'ont pas ce choix-là. Hein. Donc, c'est aussi un privilège d'avoir le choix, de se dire je peux en avoir ou je ne peux pas en avoir. Mais c'est je crois que le principal et la chose sur laquelle il faut insister, c'est que c'est un droit. Et après, voilà, c'est le droit de ça. Mais ça, ça relève de droits très... Enfin, à la fois, c'est le droit des femmes et à la fois, c'est aussi le droit de l'humain. Parce que je pense qu'il y a plein d'hommes qui n'avaient pas du tout envie de voir leur femme se faire charcuter et mourir de l'IVG. Il y a des hommes aussi qui ont envie d'être avec des femmes et qui partagent leur non-envie d'enfant. Il y a aussi plein de choses comme ça qui sont... c'est un droit partagé qui est... Voilà. Même si dans la loi Veil, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'elle a donné la possibilité aux femmes de choisir. Et ça, c'était, elle le dit, Joëlle Brunery-Kaufmann, elle dit que c'était révolutionnaire, parce qu'il y a des endroits où l'avortement est permis, mais les femmes doivent passer devant un conseil qui va décider pour elles, qui est souvent un conseil d'hommes, en fait. Hein. Et il y a des femmes aussi, il y a des pays où on a le droit à l'IVG, mais il faut demander l'autorisation au mari. Et elle a dit que c'était à la femme de décider parce que c'était elle qui portait l'enfant. Et ça, c'est quelque chose d'une spécificité de la loi Veil qui est très importante.
Ah, salut. Ben écoute, moi, j'ai fait... Enfin, j'ai pas du tout autant d'expérience que toi dans le milieu et tout, mais moi je suis sociologue en fait et j'ai étudié pour mes études les plannings, j'ai été dans les plannings familiaux à Bruxelles, donc en Belgique, enfin voilà, j'ai travaillé là-bas. Et il se trouve que, en fait, voilà, j'avais lu, enfin c'est à peu près le même parcours que la France, ça veut dire ces luttes de femmes et puis ces médecins qui s'y intéressent et qui commencent à les aider avec la contraception, etc., l'accouchement sans douleur et tout. Et en fait, j'ai travaillé dans ces plannings, dans les plannings aujourd'hui, et j'ai vu quelque chose de qui m'a choqué, que j'ai trouvé fou, horrible. C'est que, en fait, tous les jeunes médecins, enfin, on va pas faire une généralité parce qu'il y a aussi des chouettes médecins comme celui à côté de moi, ok? Et une majorité de ces jeunes médecins sont de moins, enfin, reculent au niveau de leurs idées. On sent que la question de l'émancipation de la femme, c'est pas la même chose, et c'est emblématique dans l'émanation, par exemple, de certains plannings qui sont, par exemple, les fédérations. Et dans ces fédérations, on fait des campagnes un peu spéciales sur mon mariage, mon choix. Alors je sais pas, enfin il faudrait qu'on pousse les femmes à pas se marier, surtout que dans les, enfin si mon mariage, mon choix, c'est la question que il faut pas le mariage forcé, il faudrait quand même que les femmes elles se marient pas, enfin bon voilà. Bref, il y a d'autres choses, et l'une des choses moi que j'ai étudiée, parce que je la trouvais la chose la plus choquante que j'ai trouvée, c'est les réflexions d'hymen dans les plannings. Dans certains plannings de Bruxelles, on recoue les hymens pour préparer la femme à aller au mariage et etc. Oui, hein, c'est horrible. Bon,
non, voilà, c'est pas pour préparer.
Après, oui, après une chose. Moi, vous comprenez, c'est une autre chose. Ça veut dire que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va aider ces femmes dans leur parcours. Mais moi, ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est est-ce que vous avez remarqué dans les plannings cette absence de transmission de ces idéaux que moi j'ai vus, cette absence de transmission auprès des jeunes, on sent que la transmission ne se fait pas. On sent qu'elle est plus faible. Elle est faible. C'est vraiment les idéaux militants. Moi, je la vois, je l'ai vue en Belgique. Donc je me demande si vous l'avez vue.
Mais moi, je ne suis pas en Belgique. Et je passe pas mon temps au planning familial non plus, donc j'ai vu les gens du planning familial pour faire ce livre. Moi, j'ai trouvé que, au contraire, dans mon expérience du planning familial, j'ai trouvé que c'était très étonnant leur discours, parce qu'ils restaient très ouverts sur plein de choses. Ils disent, par exemple, il y a des gens qui ont envie de faire un IVG, ils ont envie d'entendre le cœur battre, et l'autre, parce qu'il y en a plein qui se plaignent qu'on leur force d'entendre le cœur battre avant l'IVG. Et puis, il y en a, ça les gêne pas de l'entendre, il y en a, ça les gêne, et ils respectent, ils disent, ben non. non, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. J'ai l'impression, dans les gens que j'ai rencontrés, j'ai eu l'impression que c'était des gens qui étaient à l'écoute et qui, moi, quand j'ai eu des problèmes, je ne suis jamais allée vers le planning familial, mais c'est une histoire de famille, parce que j'ai une de mes tantes qui était une fondatrice du planning familial et qui était absolument épouvantable. Mais j'ai appris en faisant ce livre que, oui, elle était épouvantable. Quand je suis arrivée à Paris, je suis allée la voir, elle m'a serré la main pour faire payer la consultation et tout ça, et elle était elle était odieuse. Et en fait, j'ai appris une chose, c'est qu'il y avait eu un combat à l'intérieur du planning familial entre la fondation de la création du planning familial, qui était une création, ça s'appelait la maternité heureuse, et c'était pour défendre la contraception. Mais une fois que la contraception est passée, ils avaient fait et fini leur combat, ces médecins-là. Mais par contre, il y avait les médecins, et puis il y avait tous les gens qui étaient non médecins qui accueillaient au planning familial, qui étaient des volontaires, des bénévoles, des gens qui travaillaient gratuitement. Et eux, toute la journée, ils accueillaient des femmes qui étaient enceintes et on leur disait, ben non, on pourra vous aider pour la contraception, mais là, vous accouchez et puis après, vous... voilà. Alors, il y avait des endroits où on pratiquait l'IVG, mais sinon... et alors, du coup, ces femmes-là, elles ont dit, mais non, le combat, il n'est pas fini, faut demander l'IVG maintenant. Et en fait, la fondatrice du planning familial, elle n'était pas pour l'IVG. Et du coup, il y a eu un peu des conflits à l'intérieur. Et en fait, le MLAC a fait de l'entring, hein, c'est-à-dire qu'il a fait, aux élections qu'il y a eu au planning familial, ils ont tous voté pour le MLAC et c'est eux qui ont pris le pouvoir à l'intérieur du MLAC. Et c'était plus des médecins du coup qui dirigeaient, c'était des militants qui dirigeaient le planning familial, hein. C'est une histoire, parce que j'ai lu les 50 ans du planning familial pour écrire ce livre, et du coup j'ai appris ça à travers, hein. Mais c'est le planning familial français, hein. Le coup des femmes qu'on recoue pour l'hymen, c'est tout un autre problème que celui de l'IVG, c'est un autre débat en fait, hein. On pourrait en parler une autre fois, peut-être qu'on fera un livre un jour dessus, c'est intéressant, hein, mais c'est pas du tout le problème par rapport à l'IVG. Mais sinon, voilà, il y avait quelque chose comme ça par rapport au planning familial, et du coup c'est devenu un endroit. Et moi je les ai trouvées assez étonnantes, vraiment assez étonnantes, parce que moi je suis arrivée quand j'ai eu tout le discours de ce jeune anti-IVG, j'ai tout noté, et puis je suis allée les voir et j'ai dit voilà, vous répondez à quoi, et leur réponse, elle m'a vraiment surprise. D'abord je les ai trouvées modestes, parce qu'elle me disait, ben pour ça un tel a dit ça, elle mettait toujours en avance des sociologues, beaucoup de sociologues, hein. Vachement intéressante. J'ai pas leur nom là par cœur, mais on a du coup lu ses livres et tout ça, et qui c'est elle justement qui parlait de ben que par exemple le fait que on parle de récidiviste, là c'est elle qui expliquait ça, c'est elle qui expliquait aussi que on a tant d'années à gérer sa fécondité, c'est elle. Donc elles m'ont renvoyé à plein de gens, plein de lectures, je suis partie avec plein de documentation et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai eu l'impression que j'arrivais dans un lieu ouvert et de réflexion. Par contre, depuis qu'on a sorti ce livre, il y a beaucoup de planning familial qui nous ont invités, parce que ils ont plus de subventions, qu'on les aide plus et qu'on les force à fermer. À Toulouse, le planning familial ferme, à Nantes on nous a invités, il est dans des grandes difficultés aussi, et il y a plein d'endroits où les gens ne savent plus où s'adresser pour aller au planning familial, parce que les plannings familiales ont fermé. Et par rapport à l'hymen que vous parlez, qu'on recoue, parce que ça c'est souvent les gens d'origine musulmane qui sinon ont des graves problèmes si elles ne se marient pas vierges, mais moi j'ai des copines musulmanes qui m'ont dit heureusement qu'il y a le planning familial, parce que nous on est élevés en France, on va à l'école française, nos copines et nous on a la même vie, et puis le jour où tout d'un coup arrivent nos règles, on n'a pas le droit d'en parler, et nous on va pas chez le gynécologue, alors que les copines du même âge que nous, elles vont chez le gynécologue. Et puis après on n'a pas le droit, c'est tabou, on parle pas de sexualité, c'est ça le problème, c'est ce gros tabou sur la sexualité, quoi. C'est terrible, et alors on n'a pas du tout le droit d'en parler et tout ça. Et du coup elle dit, ben, y a beaucoup de filles algériennes qui ont recours à l'avortement en étant mineures, parce que elles n'ont aucune information. Et ça c'est quelque chose qu'on se rend compte quand on lit Annie Ernaux et qu'elle parle de l'événement de son IVG et tout ça, c'est que les femmes n'avaient aucune connaissance de leur corps. Elles ne savaient pas, Annie Ernaux, elle a le fœtus tombe, elle coupe le cordon, puis elle pense que c'est fini. Elle est très étonnée de se retrouver à l'hôpital aux urgences avec une inflammation, qu'il y a tout le reste qui n'est pas tombé et qu'on n'a pas de connaissance. Et elle dit, nous, on ne sait pas comment on est enceinte. Donc comment savoir, comment ne pas être enceinte si on ne sait pas comment on devient enceinte. Donc ce manque d'information, et ça c'est quand même un rôle de l'école, hein, au début quand il y a eu le sida et tout ça, les gens d'aide s'étaient débrouillés pour qu'il y ait une information au niveau de la sexualité. On a pensé que ça allait se débloquer, qu'on allait informer un peu plus les gens, mais non, c'est comme la pilule du lendemain. L'autre fois j'interviewe une femme et elle me dit, ah oui, parce que la pharmacienne en bas, elle me dit, oh, les jeunes maintenant ils ont un toupet incroyable, ils rentrent à la pharmacie, ils me demandent la pilule du lendemain. Et ben, y a une loi qui dit que quand on est mineur, on a le droit de rentrer dans n'importe quelle pharmacie et demander la pilule du lendemain, et que la pharmacienne n'a pas le droit de vous demander votre carte d'identité. Vous devez juste écrire votre nom sur une feuille, et c'est même pas la peine de mettre votre vrai nom. C'est parce qu'eux, ils ont besoin pour leur quota de savoir combien de gens vont prendre la pilule du lendemain. Mais ça, c'est une loi qui n'est pas dite. Et quand on va dans les collèges et qu'on leur dit ça, ils écarquillent des grands yeux. Hein, et nous, on a rencontré avec Alain aussi, ça nous a beaucoup touché. Une fois, une infirmière scolaire dans un lycée où on intervenait, elle nous dit, ben, y a un jeune, il n'était pas dans le lycée. Et sa copine est enceinte de lui, et ils ne savent pas quoi faire, ils sont désespérés. Lui, il a l'idée d'aller voir l'infirmière scolaire du lycée, et ce n'est pas son lycée. Donc il arrive à rentrer dans le lycée, voir l'infirmière scolaire, lui dire qu'est-ce qu'on fait, et il se fait engueuler par le proviseur qui le chope, alors que moi, je trouve que c'est super intelligent, de la part d'un môme qui a 16 ans, de se dire « je vais aller voir l'infirmière scolaire du lycée ». Donc moi, j'ai plutôt rencontré des gens de cette ouverture-là, hein, et même les médecins qui étaient contre, comme ce médecin lyonnais, après, quand il a lu le livre, il m'a dit, mais oui, c'est vrai, on se trompe, et c'est... Alors après, il y a les anti...
Mais ceci dit, faut dire aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quand on va dans des établissements scolaires et qu'on montre aux jeunes l'affiche avec le cintre et en disant plus jamais ça, et on leur dit à quoi ça sert, qu'est-ce que vous comprenez de ça, et que personne ne peut répondre, et ça montre que la transmission de cette histoire-là, de l'avant-loi ou de la pratique de l'avortement illégal qui peut se faire dans tous les pays du monde, elle se fait pas. Il y a vraiment besoin de recommencer à dire comment c'était avant, parce que aujourd'hui, ceux qui veulent remettre en cause la loi Veil ou la possibilité d'avorter légalement, s'ils gagnaient, ça serait le retour au Moyen-Âge. Et pareil, on se retrouverait dans la même situation avec... Si tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux, tu vas avorter avec n'importe qui, du moment que tu donnes de l'argent, et tu peux aller à l'étranger, etc. Mais si tu n'as pas d'argent, si tu es pauvre, c'est la galère comme avant. Donc ça, effectivement, il y a une faiblesse de cette mobilisation, de cette transmission.
Mais je pense qu'elle vient de la douleur aussi, cette faiblesse de transmission. C'est pas évident d'aller raconter à ses enfants. Ma mère, elle me l'a raconté. Le jour où la loi Veil passe, elle vient. Alors, elle me voyait jamais. Hein. J'étais dans la même ville qu'elle, en pension, dans un foyer de sœurs et tout ça. En plus, j'étais chez les sœurs. Et elle vient me chercher et elle me raconte, avant mon cours de danse, tous les IVG qu'elle a subis. Et alors, elle emploie des mots très crus. Hein. Elle m'explique ce qui lui tombe dans la main, ce que tout ça. Dans le bouquin, j'essaye d'être un peu doux parce que je voulais que le bouquin il puisse être lu par des personnes qui ont 15 ans. Je ne voulais pas faire un truc hard, de tomber dans le truc. Donc, j'ai pensé vraiment à ce lectorat-là, et je voulais que ça s'adresse aussi aux gens jeunes et tout ça. On tombe vite dans le gore dans ces histoires-là. Et du coup, voilà, mais il n'y a pas eu de transmission. Et alors, du coup, ma mère, elle me le dit, mais elle n'ose pas me dire que moi, elle ne me voulait pas à ce moment-là. Mais elle me dit tout ça. Et en fait, moi, je lui suis très reconnaissante parce que et puis, il y a beaucoup d'enfants, quand leur mère leur disait, mais moi, je te voulais pas. En fait, c'est pas la personne elle qui voulait pas. Ce qu'il voulait pas, c'est avoir un nouvel enfant. Mais quand on dit à son enfant, ben moi j'aurais voulu que l'avortement existe à ton âge parce que j'avais pas prévu ta grossesse, l'enfant sur le coup il le vit vachement mal. Il se dit, ah ben on me voulait pas moi. Mais non, c'est pas soi. C'est le fait d'être à sa troisième grossesse ou le fait d'être. C'est ça qui est douloureux et que compliqué. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de transmission. Et c'est pour ça que je me suis dit que ben voilà, fallait le faire. Et que la BD était un bon modèle pour le faire. Aussi.
Est-ce qu'on a découvert, nous, en faisant ce livre, est-ce qu'il faut remarquer aussi, est-ce que vous remarquez tous, c'est ce retour de la réaction morale, moraliste, religieuse, qui fait que ça se mélange avec cette histoire d'avortement, et que c'est très dangereux, parce que on peut pas en parler à ce niveau-là, parce qu'il y a toujours des questions de morale Nous, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on comprend aussi avec, pour revenir à l'histoire des hommes et de l'ordre des médecins, etc., c'est que, en fait, à cette époque-là et toujours, quand la société, elle se fout de l'avortement, en fait, ce qu'elle veut, au bout du compte, c'est le contrôle social sur la femme. Et ça, c'est très important. C'est qu'à la fois, il y a effectivement la place des hommes, mais il y a aussi la société. La société, elle ne veut pas, et c'est pour ça qu'il y a des points communs entre les différents pays et les différentes religions sur cette question-là, que ce soit musulmans, juifs, catholiques, bouddhistes, catholiques, hindouistes, etc. Oui, c'est vrai. Mais quoi? Bon, il n'y a quand même pas protestant.
Mais
il y a quand même un contrôle. Il faut pouvoir contrôler la femme. Et c'est très dangereux que la femme puisse décider elle-même ce qu'elle va faire et faire son choix elle-même.
Et ça, c'est aussi une chose que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de ce livre où on dit qu'il est en deux parties. En fait, et qu'il y a des gens, ils auraient voulu savoir plus sur ma famille, sur mes frères et sœurs, ce qu'ils étaient devenus, sur tout ça. En fait, c'est très difficile de faire de l'autobiographie là-dessus parce qu'en fait, c'est pareil, mon éditrice, elle me dit « Ah, mais quand même, quand on te voit, on se dit bah, peut-être qu'heureusement qu'elle n'a pas été avortée parce que en fait, ta vie, elle est belle et puis t'écris et puis t'as des enfants et puis t'es tout ça. » Mais c'est pas le problème. D'abord parce que moi, je ne revivrai pas mon enfance pour rien au monde. Mais en plus, pour ma famille, ça a été très, très douloureux. Pour mes frères et sœurs, ça a été très douloureux. Et si je ne parle pas d'eux dans le livre, c'est parce qu'ils sont vivants et que je n'ai pas envie d'aller raconter leur vie à leur place, que je ne m'en sens pas légitime et qu'il faut ménager les gens. Donc voilà, mon père aussi, je raconte qu'il était violent. Il était beaucoup plus violent que ce que je raconte. Là aussi, j'évite le gore. Mais c'est aussi parce que lui, il a refait sa vie. Donc je ne suis pas là pour aller détruire sa vie. Mon problème n'était pas de refaire un film genre règlement de compte à Hockey Corral, on arrive avec les flingues, on tue toute la famille. C'était plutôt un truc pour dire voilà, cette légitimité-là et défendre ce droit. Et j'étais contente parce que c'est un livre qui met en honneur justement ma mère et tout ça. Et en fait, je trouve que c'est ce que j'ai dit à une journaliste qui me disait oui, mais pourquoi t'as pas été plus loin dans la première partie et tout ça. Je lui ai dit mais ça sert à rien de refaire un poil de carotte ou refaire un vipère au poing. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi poil de carotte et pourquoi vipère au poing. Pourquoi tout d'un coup, il y a des enfants qui sont martyrs dans une famille. C'est parce qu'il y a une raison. On n'est pas voilà. Donc c'était ça qui était plus intéressant.
Bon, ben je pense que on va vous remercier de ce forum qui était extrêmement intéressant. Il va y avoir quelques frustrations puisque des mains s'étaient levées mais que nous n'avons pas le temps de prendre les interventions. Mais en revanche, vous pouvez vous déplacer sur ce côté du marabout où se trouvent en vente les deux romans dessinés de Désiré et Alain Frappier.
Et je voulais juste rajouter qu'on s'amuse à faire dans les bandes dessinées à rajouter des personnages. Et on s'est amusé à... Alors on ne savait pas qu'on viendrait ici, mais dans une manif des années 70, on a rajouté Arlette Laguiller.
Bah oui, qui a effectivement contribué à la lutte pour...
Non, mais je vous demande absolument d'aller là-bas. Non. C'est mon autre ami. Je parie qu'elle te connaît.
Absolument. D'accord.
Mais oui. C'est dingue. Parce qu'on est sur...
Si au début il y a eu plusieurs interruptions, mais c'était aléatoire. Il y a eu des interruptions aléatoires, des micros, ils s'arrêtaient et ils redémarraient.
C'est trop marrant, c'est le moment de trop. On va juste aller dégouiller parce qu'elle va être déjà. D'accord.